l'émission littérature. On va terminer avec l'interview avec Pierre Cassonoguès pour ce livre « Mon zombie et moi, la philosophie comme fiction » paru dans la collection L'Ordre philosophique au Seuil. Merci beaucoup Pierre Cassonoguès d'être en direct par téléphone avec nous.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Merci. Alors, on va commencer avec ce titre. Ce titre est énigmatique pour un livre philosophique, parce que, n'est-ce pas, c'est quand même un livre philosophique. C'est paru dans la collection L'Ordre philosophique au Seuil, qui publie des livres de philosophie. C'est une collection prestigieuse en plus. Et votre titre énigmatique s'appelle « Mon zombie et moi ».
Oui, alors le zombie, c'est dans la philosophie, c'est d'abord dans la philosophie analytique contemporaine, un personnage récurrent, donc un être qui nous ressemblerait en tout point, sauf qu'il n'aurait pas d'expérience intérieure. Il aurait le même comportement que nous, mais il n'aurait pas cette expérience que nous avons. Et la question est de savoir si on peut effectivement imaginer un tel être, si un tel être est possible, si l'on peut croire que nos congénères sont de tels zombies. Alors ce qui m'intéressait là, c'est qu'on avait à l'intérieur de la philosophie contemporaine l'intervention d'une figure littéraire de l'imaginaire, disons de la science-fiction, littérature fantastique. Et donc, dans mon livre, j'ai essayé d'étendre ce personnage, de le multiplier, d'en modifier les caractéristiques. C'est donc un zombie qui passe à travers toute une série d'aventures, disons, de métamorphoses. Et moi, le philosophe, j'étudie, je commente, je discute des mes aventures de mon zombie, d'où ce titre « Mon zombie et moi ». Je dois dire qu'un autre titre que j'avais au départ, c'était la philosophie comme science-fiction, qui était peut-être plus explicite, avec « science » entre parenthèses. Et donc l'idée là, c'était de défendre dans ce livre une méthode de philosophie qui en fait mettait entre parenthèses le rapport à la science et insistait sur la part de la fiction dans la philosophie.
Et donc vous vous êtes dédoublé. Je vous cite, vous écrivez « Cet essai juxtapose deux discours, celui du philosophe-auteur, que l'on entend le plus souvent, et celui de son double, un zombie pour ainsi dire, qui raconte ses métamorphoses. Ce sont des fictions en italique. » Voilà, ce sont des fictions en italique dans votre livre. Et là, vous dites, ça m'intéresse beaucoup, que le zombie doit être infiniment plastique et se plier à toutes les expériences possibles, perdre chaque fois la mémoire des expériences passées pour se prêter à une nouvelle métamorphose que les précédentes ne conditionnent pas.
Oui, alors effectivement, donc le livre, il y a une série de mes aventures du zombie, hein, une série de personnages, donc une série de fictions qui sont en italique et qui sont toutes écrites à la première personne au présent et à la première personne du singulier en jeu. Et donc il s'agit de se mettre à la place de ce personnage et de se faire ce personnage, ce zombie lui-même, et d'essayer de voir dans quelle mesure il est possible d'imaginer ou non telle forme de vie. Pour prendre un exemple, le début, est-ce qu'il est possible d'imaginer avoir un corps non connexe, un corps fait de morceaux disjoints. Par exemple, un corps qui aurait la tête d'un côté, un peu comme les saints, vous savez, sur les tableaux médiévaux, qui aurait la tête d'un côté et le corps de l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un corps fait de deux parties différentes ? À quoi disjointe ? À quoi ressemblerait notre vie ? Est-ce que l'on peut imaginer la vie d'un tel être ? Et pour ma thèse est que pour l'imaginer, il faut essayer de se raconter une histoire dans laquelle cette première personne du singulier, suit un tel être au corps non connexe, au corps coupé. Et donc il y a des formes de vie telles celle-ci, un corps non connexe que l'on peut en effet imaginer, je soutiens, et puis des formes que l'on ne peut pas imaginer, en particulier donc à la fin, il me semble que la peau est une structure de notre expérience absolument nécessaire et qu'on ne peut pas imaginer ne pas avoir de peau. Mais toujours est-il donc le possible est déterminé par la fiction, par la capacité à se raconter une forme de vie, une histoire, une forme de vie en première personne au présent. Et donc, je me dédouble en effet, puisque d'un côté, je reste le philosophe qui pose les problèmes, et de l'autre côté, je me transforme en une sorte de zombie qui vit vit dans une série, vit une série d'aventures, et ce zombie doit être effectivement infiniment plastique, c'est-à-dire doit pouvoir parcourir tout le domaine du possible. C'est la thèse que la fiction détermine le possible. Donc, ce zombie, il doit pouvoir prendre toutes les formes de vie possibles, être donc aussi plastique qu'il est a priori possible.
Et là, dans votre livre, concrètement, vous inventez des histoires. Parce qu'il n'y a pas que des extraits. Il y a bien entendu des extraits abondants de la littérature de science-fiction. Mais vous-même, vous inventez des histoires.
Oui, absolument. Absolument.
Vous vous faites écrivain de science-fiction en prenant la peau du zombie. Enfin, si je peux me permettre de dire que vous prenez la peau du zombie.
Oui, non, écrivain de science-fiction, je ne sais pas, parce que le propos reste philosophique. Enfin, les fictions qui apparaissent dans le livre sont toutes déterminées par un problème philosophique assez précis. Mais effectivement, ces fictions qui déterminent le possible, il y a des fictions que je reprends dans la littérature fantastique ou de science-fiction, en particulier Wells, par exemple, je pense à une nouvelle qui me semble très intéressante, le cas des yeux de Davidson, où le personnage, donc Davidson, se dédouble justement, et il, à la suite d'une mystérieuse explosion, et il voit dans une île de l'autre côté du Pacifique, il voit cette île, en même temps que le reste de son corps reste situé dans son laboratoire à Londres, et qui donc il continue de toucher dans ce laboratoire. Ce qui fait qu'il voit une plage dans la nuit, alors qu'il se heurte à la table qui se trouve dans le laboratoire. Et donc c'est, il me semble, une expérience de pensée tout à fait intéressante sur une dissociation entre la vue et le toucher. Donc reprendre des situations existantes de la littérature fantastique ou de science-fiction, et montrer par le même coup que cette littérature a une portée philosophique qui est parfois ignorée, et d'un autre côté, essayer également d'imaginer des situations, disons nouvelles, d'imaginer de nouvelles situations pour poser certains problèmes philosophiques. Donc, je ne dirais pas que je suis, en écrivant ces nouvelles, un écrivain de science-fiction. Je suis justement philosophe, à la différence, par exemple, j'ai publié l'an dernier un roman, où là, effectivement, il s'agissait d'imaginer une histoire, des personnages, sans qu'il y ait un problème, sans que cette histoire soit dominée par un problème philosophique. Alors que les nouvelles ici, ces sortes de nouvelles, ces petites histoires, sont beaucoup plus... ont une finalité beaucoup plus explicite et précise.
Alors cette manière d'écrire de la philosophie, tout ça, c'est un objectif pour vous, et ce grand objectif dans ce livre, c'est de créer une méthode.
Absolument, disons de créer une méthode. Ma thèse est que la philosophie a toujours utilisé la fiction, de façon parfois inavouée. Et je m'attache à justement discuter en tant que tel des fictions de l'histoire de la philosophie. Par exemple, la fiction du malin génie au début des méditations métaphysiques, ou bien la définition de la personne par Locke et les deux fictions qui la soutiennent. Donc la philosophie a pour moi toujours utilisé la fiction, mais j'essaye effectivement de rendre cette méthode explicite et d'élargir les fictions traditionnellement utilisées par la philosophie, de les élargir donc vers la science-fiction et la littérature fantastique. Mais effectivement, il s'agit bien dans ce livre d'essayer, oui, d'expliciter une méthode et de défendre une façon de faire de la philosophie. Oui.
Alors, cette manière de faire, j'ai envie de reprendre un peu l'historique de vos publications. Je trouve au fil de vos publications qu'il y a un intérêt pour des personnages limites. Ici, par exemple, dans votre livre, ça va être les limites du corps. Je prends juste l'exemple de l'homme invisible, par exemple. Ça peut être, dans vos autres livres, les limites de la folie. Le cas de Kurt Gödel, par exemple. Donc là, on a « Mon zombie et moi » comme titre. En 2007, vous avez publié deux livres. Il y avait « Les démons de Gödel ». Il y avait une histoire de machine, de vampire et de fou. Ma question, c'est que, au fil de vos livres, qui sont pourtant différents les uns des autres, j'ai l'impression qu'il y a une grande question qui traverse l'ensemble de vos livres, de votre début d'œuvre. Et ma question, c'est quoi votre grande question à vous? Quel est votre grand fil conducteur?
Votre question, en fait, on contient plusieurs. Sur les personnages, effectivement, je m'intéresse à des personnages, disons, bizarres, donc les vampires, le zombie, les robots, et je pense que la philosophie a beaucoup, la philosophie contemporaine, hein, a beaucoup à gagner à s'intéresser à la littérature fantastique et de science-fiction. Il y a effectivement, depuis, une philosophie qui s'attache à la littérature, Merleau-Ponty, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais la philosophie en France en particulier, mis à part peut-être Deleuze et Guillardot, a beaucoup négligé la littérature de science-fiction et je pense on a ignoré la portée philosophique. Sur les limites, effectivement, c'est pour moi une question d'essayer de comprendre, oui, quelles sont les limites possibles de notre expérience. Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Qu'est-ce que l'on peut imaginer vivre? Et donc, évidemment, donc on peut, qu'est-ce que l'on peut imaginer? Prenez, des lutins aux grandes oreilles et à la peau verte. Il n'y a pas de difficulté à imaginer de tels lutins. Je dirais, on peut très bien imaginer avoir la peau verte et des grandes oreilles. Ça ne changerait pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut imaginer notre expérience variée. Avoir la tête détachée du corps, ou avoir un corps en deux parties disjointes, cela poserait des problèmes. Par exemple, cette question de savoir où je suis, si mon corps est en deux parties, où je suis. Et dans quelle mesure cette autre partie, où je ne suis pas, reste mon corps. Comment cela se décrit-il? Donc, un intérêt effectivement pour les limites du possible, les variations possibles que l'on peut faire subir à notre expérience. Et enfin, troisième question dans ce que vous avez dit, la grande question qui dirige mes travaux, c'est de façon explicite celle du sujet, c'est-à-dire comment penser le sujet, le jeu, et quel statut lui donner. Et c'est, depuis mes premiers travaux sur Cavaillès, c'est la grande question, qui dirige mon travail, d'essayer de comprendre ce que c'est que le sujet et quel statut lui donner. Et si on ne peut pas dire véritablement ce que c'est que ce sujet, si je ne peux pas dire ce que je suis de façon définitive, pourquoi? Et donc c'est effectivement une question qui m'a amené d'abord à suivre Cavaillès dans ce qu'il appelle la critique de la conscience et à essayer de penser que le sujet, plutôt que de se connaître lui-même, s'identifie à toute une série d'objets. Et ensuite, justement, d'étudier le mécanisme de cette identification et la façon dont le sujet peut s'identifier donc à des personnages imaginaires. Et c'est donc à partir de cette étude de l'identification que j'en suis venu à cette littérature fantastique ou de science-fiction et c'est donc ces personnages bizarres que je viens d'évoquer.
J'aimerais maintenant comprendre votre goût pour la science-fiction. Comme vous l'avez dit, il y a que en France, en tout cas, il y a que deux philosophes qui s'en sont intéressés, Guillardreux et puis Deleuze. Pour les États-Unis, on peut penser je l'ai sur le bout de la langue, qui a écrit Penser avec la science-fiction. C'était paru chez Max Millau. Ça vous dit quelque chose?
Non, pas là, comme ça.
Ça me reviendra peut-être en fil d'émission. Et donc, je cherche pourquoi votre goût pour la science-fiction. Parce que vous avez une manière très personnelle, je trouve, de mélanger la littérature, c'est-à-dire la fiction, donc, et puis la pensée philosophique, plus la science. Est-ce que c'est du coup de ce mélange que provient votre goût pour la science-fiction? Parce qu'on voit bien que la science-fiction, elle travaille à la fois la fiction, à la fois la philosophie ou le concept philosophique, et à la fois la science.
Oui, bien sûr. Enfin, la science est de façon très très ambiguë. Je pense, comme l'a bien vu Guillardreau, chez Deleuze, hein, les références à ce genre de littérature sont très très ponctuelles. Il y a quelques références dans Mille plateaux, mais il dit pas de façon systématique. Ou même, il n'en fait pas véritablement son objet comme a pu le faire Guillardreau. Mais Guillardreau remarque dès le début, dans son essai là, sur la science-fiction, je crois que c'est fiction philosophique, il remarque dès le début que la science-fiction se trouve avoir repris toute une série de questions de la philosophie classique. Et c'est manifeste chez, bon, sans parler d'auteurs comme Borges qui s'attache de façon explicite à des problèmes philosophiques, mais des auteurs moins légitimes peut-être comme Philippe K. Dick ont un rapport à la philosophie évident et très conscient. Enfin, Philippe K. Dick, hein, dans son livre dont a été tiré le film Blade Runner, appelle son héros Rick Descartes. Enfin, difficile de ne pas y voir le descendant de notre René Descartes. Donc, je pense que la littérature de science-fiction a une proximité avec la philosophie et qu'elle a travaillé à l'intérieur donc de ce genre, de cette littérature particulière, elle a retravaillé des questions philosophiques et que la philosophie explicite, enfin, qui se veut comme telle, universitaire, n'a qu'à gagner à s'intéresser à ce développement, cette branche non reconnue et imprévue d'elle-même qui a poussé au cours du XXe siècle.
Et ça explique votre goût, vous, personnel, pour la science-fiction ?
Bah, je dois dire, oui, d'une certaine façon, j'ai commencé à vraiment lire de la science-fiction assez tardivement, et au moment où j'ai découvert des problèmes philosophiques, et j'étais pas avant un très grand lecteur de science-fiction. Et je dois dire du reste que mon goût pour la science-fiction est vraiment très très éclectique, et que bon, je m'intéresse à des auteurs comme Philippe K. Dick ou Calvino ou Arthur C. Clarke, mais qu'il y a tout un pan de la science-fiction que je connais pas. Donc, des choix très très éclectiques en fonction véritablement de problèmes philosophiques, dominés, si vous voulez, par des problèmes philosophiques.
J'ai retrouvé mon auteur de philosophie américaine, c'est Jameson. Il a écrit.
Oui, d'accord.
Voilà,
oui,
c'était Penser la science-fiction, qui est paru il n'y a pas très très longtemps chez Max Milo, un livre vraiment énorme où il utilise du coup plein de livres de science-fiction plutôt anglo-saxonne et il fait de la philosophie avec, et c'est un livre vraiment. Vraiment fabuleux. Ma dernière question, ça va être votre dernier paragraphe, vos dernières phrases de votre livre qui m'ont vraiment intrigué dans votre conclusion. Je vous cite. Disons encore, pour reprendre une image antérieure, que la fiction, en tant qu'elle est écrite et se développe libre de la contrainte qu'exercerait une raison préalable, est un travail de la main détaché de la tête. De l'autre côté, la métafiction, qui doit dégager une philosophie de ses fictions, est le travail de la tête, de la raison, qui observe ce que la main écrit. La tête peut-elle parler pour elle-même, ou doit-elle rester silencieuse, invisible, cachée au fond d'un placard en quelque sorte ? Ou est-ce seulement l'autre...